Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Je suis en présence de Jacques Rancière. Jacques Rancière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez été professeur pendant longtemps à l'Université Paris 8, vous êtes spécialiste de politique et d'esthétique, vous avez écrit de nombreux ouvrages connus du grand public, j'en mentionne certains, ceux qui ont marqué ma jeunesse étudiante, Le Maître ignorant, Le philosophe et ses pauvres, La haine de la démocratie. Vous étiez déjà venu chez nous ici à hors série l'an dernier ou il y a 2 ans, vous aviez écrit un livre, Les temps modernes, un livre qui portait sur la danse et le cinéma dans la période qui va grosso modo des années 1890 aux années 1930, et vous y développiez une idée forte, à savoir que le temps n'est pas qu'une ligne tendue tracée entre le passé et l'avenir, mais qu'il est une distribution hiérarchique des formes de vie entre ceux qui ont le temps et ceux qui n'ont pas le temps. Et vous publiez aujourd'hui, chez le même éditeur, hein, toujours les éditions de La Fabrique, un ouvrage intitulé cette fois-ci « Le temps du paysage », sous-titre « Aux origines de la Révolution ». Esthétique. Il est donc question dans cet ouvrage non plus de la danse et du cinéma, mais de ce que vous appelez un nouveau venu parmi les beaux-arts, à savoir les arts précisément du paysage, de l'aménagement des parcs et des jardins. Et vous revenez sur les querelles qui ont animé les philosophes au moment, à une époque contemporaine de la Révolution française, hein, à savoir notamment Emmanuel Kant et puis Burke, mais querelles aussi plus tard dans lesquelles Hegel vont intervenir. Et dans cet ouvrage, vous expliquez que ces querelles autour de ce qu'est le paysage et ce qu'est la nature ont en fait une portée politique et que ce n'est pas une coïncidence si précisément la naissance de l'esthétique qui est annoncée par les Beaux-Arts coïncide avec un moment aussi de révolution et d'émancipation politique, celui de la Révolution française. Ces deux révolutions, en quelque sorte, esthétique et politique, coïncident ou en tout cas participent d'une même reconfiguration du sensible. Et puis j'ai choisi pour préparer cette émission, donc basée sur cet ouvrage, de quand même en exhumer un troisième, bon, qui n'est pas si daté que ça. Il date de 2017 et il s'appelle « En quel temps vivons-nous ? » C'était des conversations que vous aviez eues avec Éric Cazan à l'époque autour des notions de représentation, de démocratie et de populisme. Et peut-être pour commencer cet entretien, je voudrais faire remarquer, mais ça a peut-être déjà frappé les esprits de ceux qui m'écoutent attentivement, qu'il y a quand même un terme qui revient dans ces trois livres qui font partie de vos trois derniers, « Les temps modernes, en quel temps vivons-nous » et « Le temps du paysage ». J'ai repris votre vaste bibliographie qui compte plus d'une trentaine d'ouvrages. Le temps n'apparaissait quasiment jamais, je ne vais pas dire jamais parce que je crois qu'il y a quand même un ou deux livres sur la chronique des temps consensuels, mais du coup j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe et qu'il n'y a là qu'un hasard, c'est vous qui allez nous le dire, qu'il y a quand même un intérêt désormais appuyer pour cette notion du temps. Simple coïncidence ou questionnement quand même philosophique de votre part?
Oui, je commencerai par dire que, effectivement, ça fait trois ouvrages où il y a le temps dans le titre. D'ailleurs, mon éditeur me l'a fait remarquer avant vous avec une nuance de désapprobation. Mais bien sûr, cela dit, le temps était quand même déjà absolument présent, je dirais, depuis le début. D'une certaine façon, c'est toujours ça dont j'ai parlé, à savoir la manière dont les questions d'égalité, d'inégalité, d'oppression, de domination, étaient étroitement liées à la question du temps. Donc mon premier livre, un de mes premiers livres s'appelait « La nuit des prolétaires ». Bon, la nuit c'est quand même du temps, puis il s'agissait de la manière dont des prolétaires subvertissent une division fondamentale du temps, qui est la division entre le jour et la nuit, en se mettant à travailler, lire, écrire la nuit au lieu de se reposer pour être en forme le lendemain au travail. Et dans ce même livre, bon, il y avait tout un développement sur l'analyse de la journée de travail par le menuisier Goni. Donc le temps, je dirais, a toujours été central pour penser, disons, l'expérience de ceux qui cherchent à s'arracher à une condition. Le temps était déjà complètement présent dans la philosophie des pauvres aussi, puisque, disons, tous peut dire que tout le livre, on peut dire, s'articuler autour de cette espèce de proscription platonicienne disant que l'ouvrier n'a pas le temps d'être ailleurs que dans son atelier parce que le travail n'attend pas. Et bon, on pourrait continuer, malgré tout, de quoi est-il question dans Le Maître ignorant. Il est question du temps, il est question, disons, de l'opposition entre un temps normal, qui est le temps de la pédagogie, qui est le temps de l'explication, qui est le temps où on vous explique qu'il faut aller de telle façon, du plus simple au plus compliqué, avec un guide qui vous fait franchir les étapes, et que c'est comme ça qu'on apprend que, bien sûr, donc pour l'instant, on doit suivre un guide, donc c'est une situation d'inégalité, mais qu'au terme, voilà, on aura le savoir et on sera devenu égal à son maître, quoi. Jacques Otto opposait précisément à cela une autre construction du temps, où, au fond, à partir de n'importe quel point, il était possible d'initier un procès de savoir qui était indépendant de cette logique pédagogique. Donc, le temps a toujours été présent là, il était présent aussi dans tout ce que j'ai pu écrire autour de l'esthétique, bon, qui a quand même toujours été lié à la critique, une certaine idée du modernisme comme une espèce justement de ligne droite, d'une certaine interprétation aussi de la modernité artistique, du moderne et du post-moderne. Donc je peux dire que malgré tout, la critique des représentations théoriques dominantes du temps et notre temps a toujours été au centre de mon travail.
Mais c'est moins le temps au singulier dont il est question à vous entendre que les temps, en fait, ou plutôt les temporalités et les conflits des temporalités. C'est toujours ça, en fait, qui est en jeu dans les différentes scènes que vous venez de mentionner.
Oui, non, bien sûr, il s'agit justement de dire que, il n'y a pas le temps, simplement, vous le disiez au départ, comme une ligne tendue entre le présent et l'avenir, où il n'y a pas non plus, ce temps comme porteur d'une promesse qui était un petit peu, malgré tout, le temps des Lumières, le temps du progrès, le temps de la révolution marxiste attendue, mais qu'il y a justement plusieurs temporalités qui s'affrontent, mais que derrière cet affrontement de temporalité, il y a aussi le fait que le temps, justement, n'est pas simplement, une durée, que le temps est aussi, un élément de ce que j'ai appelé un partage du sensible, à savoir un élément de construction de ce que l'on peut éprouver, expérimenter, selon la place qu'on occupe dans une hiérarchie. Et donc, ce qui est effectivement là en question, qu'on retrouve dans les temps modernes, c'est le fait que, la révolution, c'est pas simplement le fait qu'il y a, les conditions qui sont enfin mûres, que le capitalisme mène comme à sa conséquence au communisme, mais que non, qu'il y a, une certaine hiérarchie des temps qui se trouve brisée. Et donc voilà, c'est aussi ce que j'ai étudié un petit peu, vous rappelez dans les temps modernes, la question de la danse, par exemple. La danse, précisément, apparaît comme un type de mouvement où, au fond, il y a comme une sorte de travail sur le mouvement comme mouvement, par conséquent, au fond, une sorte d'émancipation du mouvement qui est justement, en rupture avec une tradition qui séparait ce qu'on appelait les hommes actifs, les hommes qui poursuivaient des fins, et puis les hommes passifs, les hommes sur qui le temps tombait comme ça, qui le regardaient passer, disons, désarmés, quoi. Tout d'un coup, il y a un moment où, au fond, justement, des arts créent des temporalités qui sont détaché de ce modèle hiérarchique. Donc oui, je dirais que c'est toujours ça qui est en jeu dans la question du rapport entre un temps et des temps.
Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser désormais au paysage, à ces questions au départ esthétiques, sur comment aménager de façon harmonieuse un jardin, un parc? Vous exhumez des thèses de philosophes, j'ai parlé de Burke, de Kant, il y a Hegel, il y en a d'autres. Ce n'est pas leur texte leur plus connu, pourtant c'est cela que vous avez cherché pour votre ouvrage. Comment vous en êtes venu à ces préoccupations?
Disons qu'il y a quand même très longtemps que j'essaye de travailler sur ce que j'ai appelé la révolution esthétique, à savoir la manière dont on est passé, entre la fin du 18e et puis le 19e siècle, à un univers classique normé, qui était l'univers des beaux-arts, à l'univers esthétique, en entendant cet univers esthétique ou ce régime esthétique de l'art, pas simplement comme une transformation dans les manières de faire de l'art, mais une transformation, des formes même de l'expérience sensible, dans lequel le concept d'art prend prend finalement, disons, ses racines. Voilà, bon, j'ai travaillé dans, disons, pendant quelques années, et ça aboutit à ce livre qui s'appelle Aesthesis, sur un certain nombre, justement, de scènes qui, pour moi, témoignent de ce régime esthétique de l'art, qui est fondé sur, justement, une rupture d'une certaine, on peut dire, ordonnance traditionnelle, bon, de l'expérience sensible, et rupture, bon, qui était essentiellement aussi, bon, une rupture égalitaire, c'est-à-dire une rupture qui vient séparer, disons, un partage de l'expérience sensible entre les gens qui ont du goût et ceux qui n'en ont pas, entre les gens libres et les gens pas libres. Donc voilà, j'avais toujours eu l'idée de travailler sur le paysage, parce que, bon, moi, je suis toujours intéressé au jardin, au paysage, et j'avais travaillé pendant, il y a très très longtemps déjà, si vous voulez, dans le cadre d'un cours qui essayait justement de réfléchir sur la formation de la notion d'esthétique, au rôle de, je me souviens, de ces récits de voyage à travers les lacs et les montagnes, bon, de Jill Pink, dont je parle dans ce livre. Donc voilà, j'ai voulu y revenir parce que ça me paraissait important. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est des choses dont on ne parle pas, quoi. Quand on parle d'art, bon, voilà, on parle la peinture. Bon, il y a un moment, la peinture était figurative, elle devient abstraite. Bon, la musique, bon, tout d'un coup, elle devient de décaphonique. Bon, la poésie, elle est censée, à un moment donné, devenir autotélique. Enfin, bon, toutes ces plaisanteries qu'on connaît bien, quoi. Et bon, j'ai toujours essayé, bien sûr, de travailler sur les réelles transformations qui fait que nous pensons, nous disons, nous ressentons l'art. Et bien sûr, parmi ça, il y a, disons, le paysage, l'art des jardins, dont c'est l'importance, effectivement, au XVIIIe siècle, pour définir une sensibilité nouvelle. Donc, voilà, je ne suis pas évidemment parti des textes de Kant et de Hegel ou de Burke, mais, disons, je les ai pris comme repère. C'est pour ça que j'ai parlé d'un temps du paysage. C'est-à-dire qu'il y a un temps où, tout d'un coup, bon, ça apparaît. En 1790, Kant introduit dans la peinture l'art des jardins. Bon, disons, on peut chercher dans Descartes, dans Leibniz, bon, ça n'y figure pas, quoi, dans Spinoza non plus, quoi. Et puis, il y a Burke, on reviendra à Burke, qui donne un modèle, disons, du beau, qui inspire effectivement l'art des jardins, mais bon, c'est un peu à part. Disons, il y a Hegel, en gros, il pousse l'art des jardins vers la sortie, quoi, il en fait une espèce d'appendice de l'architecture. Et après, vous pouvez regarder Schopenhauer, Nietzsche, Adorno, Merleau-Ponty, Lyotard. Ben voilà, vous constatez que ça ne figure pas parmi, disons, les domaines constitutifs de l'esthétique. Et bon, moi, je pensais que c'était important, d'autant malgré tout que ça joue aussi sur une notion qui a sa petite importance quand on parle d'art, mais pas seulement d'art, qui est celle de nature.
Alors justement, on y reviendra à la nature parce qu'il en est beaucoup question dans l'ouvrage, mais je voudrais un instant m'arrêter sur la politique parce que cette révolution esthétique, oui, elle est contemporaine, mais c'est pas juste qu'elle est contemporaine, c'est que elle a une portée, elle touche au partage du sensible et donc en fait elle touche à la politique. Est-ce que vous pouvez expliquer réexpliquer ce lien entre ces deux processus que sont la révolution esthétique et la révolution politique, dont la révolution française est l'exemple paradigmatique, mais dont elle n'est en fait qu'une des déclinaisons, disons.
Bon, j'ai toujours été quand même frappé par une chose qui est le fait que, la critique du jugement, la critique de la faculté de juger de Kant, ça paraît en 1790, quoi. Et bon, et on sait que cinq ans après, Schiller, disons, qui s'était fait l'élève de Kant, quoi, bon, en tire, disons, ses fameuses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, quoi, qui définissent un programme esthétique, mais un programme esthétique qui finalement a fini par devenir une sorte de quasiment de programme politique, on peut dire le programme d'une certaine idée du communisme. Mais bon, ça c'est un aspect des choses. Je crois que ce qui est pour moi fondamental, c'est que justement, ce qui se joue à ce moment-là, c'est une sorte de transformation un peu radicale de la place du monde des arts aussi dans les formes. Dans les formes de la pensée, dans les formes de l'expérience, quoi. C'est-à-dire que, bon, jusque-là, bon, on a quand même une hiérarchie qui est très stricte. Bon, il y a les arts libéraux et puis il y a les arts mécaniques, il y a les beaux-arts et puis il y a les arts appliqués. Et voilà, et donc ça définit des rapports avec des publics donnés. Les beaux-arts, ça définit aussi toute une série de normes. Les beaux-arts, il faut imiter la nature, mais on ne peut pas imiter n'importe quelle nature. Si on fait parler des paysans ou des aristocrates, bien sûr, il faudrait faire parler dans leur langage, de leur langage à eux, et ainsi de suite. De même, si on peint des personnages, on a les mêmes contraintes. Ça veut dire que, en même temps, toutes ces œuvres-là sont produites pour des publics, on peut dire, spécifiques. Ils sont publiés, ils sont faits, éventuellement, il y a tout ce qui est fait, bien sûr, pour la foi religieuse, il y a ce qui est fait pour exalter la grandeur des princes, il y a ce qui est fait pour correspondre à peut-être des goûts bourgeois nouveaux. Mais, disons, il y a une sorte, en quelque sorte, de correspondance entre une législation des arts et puis un ordre hiérarchique du monde, quoi. Et c'est ça, effectivement, qui se met à se défaire au XVIIIe siècle. Alors, ça ne se défait pas par un coup de baguette magique, mais disons, ça se défait en même temps que se défait un certain type d'évidence, des rapports des sujets à un souverain, des sujets à un maître, quoi. Et puis, ça aussi, on peut dire qu'il y a un certain nombre, effectivement, d'effets, on peut dire, de la révolution politique. La révolution politique, ça veut dire aussi, comme on sait, la guerre de la révolution française contre les nations étrangères, ça veut dire le fait que les armées révolutionnaires s'en vont rafler un peu partout les tableaux en disant, mais ça, c'est les œuvres de la liberté, donc ça doit être chez nous, puisqu'on est la terre de la liberté. Du coup, disons, les œuvres d'art se trouvent comme séparées, on peut dire, de leur fonction habituelle, de leur fonction de propagande religieuse ou d'exaltation des grands, ou que sais-je. Elles deviennent autonomes. C'est intéressant, ce que j'ai toujours essayé de montrer, c'est que, on dit beaucoup de sottises sur l'autonomie des arts, mais ce qui autonomise d'une certaine façon d'abord les arts, c'est la conjoncture révolutionnaire, c'est-à-dire le moment où justement il faut définir un regard sur des tableaux, sur des sculptures qui ne sont plus... font légitimer par leur destination. Donc, il faut leur inventer une destination nouvelle. Et puis, ça correspond bien sûr à ce moment où, du coup, les œuvres sont regroupées dans ces lieux nouveaux qui s'appellent musées, quoi, où on va les voir comme ça, comme tels, quoi, sans savoir, au fond, qui les a commandés, pourquoi, à quoi ça servait. Donc, il y a ce rapport qui est très intime et qui, justement, à un moment donné, va se nouer dans l'idée que la révolution, c'est pas simplement des institutions qui changent, c'est pas simplement des lois nouvelles, mais c'est aussi des formes nouvelles de la sensibilité. On sait à quel point ce thème de la sensibilité ou le thème de la sympathie sont des thèmes qui sont, disons, extrêmement insistants dans toute la fin du XVIIIe siècle, et donc qui font un lien entre ce qu'on appelle la politique et ce qu'on peut appeler l'esthétique. Je rappelle quelque part dans ce livre l'importance de la notion de sympathie, quoi. Effectivement, les révolutionnaires de l'art des jardins disent dans la nature, il n'y a pas de ligne, il y a une espèce de sympathie qui regroupe toutes les formes de la végétation, qui regroupe les arbres, l'eau, les rochers, la terre. Il y a cette chose très très forte qui lie effectivement révolution politique et révolution esthétique à quelque chose qui est peut-être encore plus, quoi, l'idée que les formes mêmes de l'expérience sensible sont en train de changer.
Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans vos livres, mais qui est particulièrement marquant. En fait, je prends volontairement ces deux-là dans une main et celui-là dans l'autre. C'est que votre travail, dans la plupart de vos ouvrages, il porte sur cette révolution politique et cette révolution esthétique qui sont des révolutions du passé, qui sont dans ces deux livres, il est question de cinéma, de danse, d'art des jardins, on l'a dit, mais on se situe au 18e, au 19e siècle, éventuellement au début du 20e siècle, donc quand même dans un passé plus ou moins lointain, et en même temps, vous êtes capable, ce livre c'était à l'invitation de votre éditeur Éric Hazan, mais de dialoguer comme ça, et vous le faites régulièrement, sur des sujets qui sont d'une actualité brûlante, qui sont éminemment actuels, qui sont aussi très politiques. Comment est-ce que vous concevez en fait le rapport et les allers-retours entre ces deux pans de votre réflexion? Je ne sais pas si je fais bien de les opposer comme ça. En même temps, justement, ce qui m'intéresse, c'est votre capacité à faire des va-et-vient et avoir des questionnements. Parce qu'en fait, les questionnements qui alimentent ces ouvrages sont les questionnements qui alimentent aussi vos réflexions sur des phénomènes aussi récents que les mouvements de place, les mouvements d'occupation, etc.
Disons que, bon, si j'ai commencé à m'intéresser au passé, bien sûr, c'était d'abord en fonction du présent. C'est-à-dire que, bon, après 68, après la perception de l'écart qu'il pouvait y avoir entre bon, bah, le schéma marxiste de la lutte des classes et puis la réalité de ce qui avait éclaté dans les rues de disons, de Paris et des autres, et d'ailleurs, quoi. Bon, je me suis dit, bon, il faut peut-être aller regarder un petit peu de plus près, quoi, ce que ça a signifié dans le passé, toutes ces choses, lutte des classes, mouvement ouvrier, émancipation ouvrière, que sais-je. Et donc, voilà, j'ai acquis, en quelque sorte, cette propension à prendre de la distance, bon, avec l'idée que cette distance, il faut aussi la prendre, parce que sans ça, on est complètement pris dans les catégories de l'actualité. Alors, les catégories de l'actualité sont les catégories de ce que j'appelle le consensus, c'est-à-dire que, bon, il y a des termes dans lesquels on parle de ce qui se passe, par exemple, mettons aujourd'hui la crise de la démocratie, voilà, les démocraties sont en crise, bon, la preuve, c'est que l'extrême droite, a beaucoup de voix aux élections, ou que sais-je. Voilà, alors, je dirais que, je pense qu'il faut, bon, il faut prendre de la distance, il faut prendre de l'écart, bon, idem pour, ce qui est du domaine esthétique, quoi. Bon, c'est-à-dire que si on veut se sortir de ces idées comme un peu niaises sur le moderne et le post-moderne, quoi, il faut se demander comment l'idée même d'art, au sens moderne, a émergé, quoi. Mm-hmm. Et bon, on se rend compte à ce moment-là que l'art n'est pas une catégorie transhistorique, que finalement l'art au singulier, ça a émergé justement dans le cadre de ce contexte de la révolution esthétique dont je parle au XVIIIe siècle. Donc voilà qu'il faut toujours un peu prendre des écarts, parce que pas simplement au sens où il faudrait tout connaître, tout le passé pour éclairer le présent. C'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que il faut arriver à, je dirais, des formes de problématisation qui soient étrangères à la logique dominante du consensus, qui, on peut dire, dit voilà les problèmes, voilà comment on peut en parler, voilà quelles sont les questions, voilà quelles sont les réponses. Donc voilà, à partir de là, on peut éventuellement interroger un petit peu différemment le présent, quoi. Donc dans les temps modernes, il n'est pas question simplement de d'œuvres anciennes, il est question par exemple d'un film de Pedro Costa, qui est un film des années 2000, quoi, voilà. Et oui, que j'essaye d'éclairer dans une séquence justement de trois films qui, à des moments différents de l'histoire du cinéma, marquent des rapports différents au temps et des usages différents du temps. Pour ce qui est de l'actualité politique, c'est vrai qu'en général, moi, je n'ai pas tellement envie d'en parler, quoi. Et que par conséquent, souvent j'en parle par sollicitation, c'est-à-dire que les gens pensent que vraiment je suis un penseur politique, un philosophe politique, ce que je ne suis absolument pas, mais ils disent, voilà, il faut quand même que vous nous parliez un petit peu des gilets jaunes, du présent, du mouvement des places, de Nuit debout. Alors voilà, j'essaye, en quelque sorte, de me replonger dans le présent, de dire des choses qui me paraissent un peu sensées, justement, je dirais, sur la base de peut-être l'expérience un peu plus large que j'ai pu acquérir de ce que les mots veulent dire.
Alors restons dans le passé, peut-être qu'après, si vous m'autorisez, je vous lancerai un petit peu aussi sur le présent malgré tout, mais restons dans le passé. Il y a dans les thèses sur le concept d'histoire de Walter Benjamin, dans la 15e, je crois, cette anecdote qui rapporte, alors je ne sais pas si elle est attestée ou pas, mais où il explique que pendant le soulèvement des insurgés parisiens en 1830, l'un d'eux prit un fusil comme ça et tira sur les horloges de l'hôtel de ville pour arrêter le temps. Est-ce que ça nous dit quelque chose des révolutions? Est-ce que peut-être qu'un des sens de la révolution, ça peut être précisément d'arrêter le temps ou d'arrêter en tout cas un certain temps qui serait le temps des vainqueurs?
D'abord, faisons peut-être un sort à l'anecdote de Benjamin. C'est évidemment une plaisanterie réactionnaire que Benjamin a retournée. C'est-à-dire que cette histoire a été entièrement forgée, bien sûr, mais forgée justement pour se moquer de ces crétins d'insurgés qui s'imaginent comme ça qu'on change le cours du temps en tirant sur les horloges. Alors bien sûr, Benjamin l'a retournée en quelque sorte pour donner une consistance à cette espèce d'interruption du temps. Je pense que personne n'a tiré sur les horloges en juillet 1830, mais une révolution, ça a toujours été une manière de constituer bon, une autre forme de temporalité. C'est-à-dire, d'une part, on arrête un cours des choses, et bon, là, on institue quelque chose comme une autre forme de temporalité. C'est-à-dire que, pourquoi je parle de moment aussi souvent? Parce que le mouvement est souvent pensé comme l'éphémère, quoi. Il y a le sérieux, il y a le long terme, et puis il y a les choses éphémères, les soulèvements éphémères. De temps en temps, les gens s'excitent, et ils font dans 3-4 jours, ou quelques semaines, comme ça, des grandes agitations, puis après, tout revient, ce qui prouve que ce n'est pas sérieux, et que tout ce qui est sérieux, c'est simplement l'évolution au long terme, qui nous mènera certainement à la révolution dans quelques milliards d'années, disait le président Mao. J'ai essayé de reprendre cette affaire-là, et de dire s'il y a finalement un temps différent du temps dominant, c'est précisément parce qu'il y a des moments qui créent des formes de temporalité différentes. En 1830, il y a 3 journées, comme ça, le peuple descend dans la rue. C'est-à-dire, les gens descendent dans la rue comme peuple, les ouvriers descendent dans la rue comme peuple. C'est-à-dire comme, finalement, une espèce de corps politique se découvre comme tel, quoi. Et puis après, justement, ça crée une sorte de ligne de temps qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'après, il se crée aussi des associations ouvrières, toute une espèce de construction, d'une pensée ouvrière, d'un mouvement ouvrier, qui sont vraiment, on peut dire, les héritières de ce temps-là, quoi. Et on peut dire que chaque coupure historique crée effectivement des lignes temporelles divergentes. Sans ça, je dirais, il ne se passerait jamais rien.
D'ailleurs, en 1792, on abandonne le calendrier grégorien qui était trop lié au christianisme et à la monarchie pour le calendrier républicain qu'on a repris, je crois, pendant la Commune de Paris. Et puis, même si Nuit debout, je pense, n'était pas une révolution, un des premiers gestes aussi, ça a été de faire durer le mois de mars après le 30, 31, 32, 33, jusqu'à je ne sais pas combien, au 100 mars peut-être. Donc ça illustre bien effectivement cette idée. Je reviens sur la notion de moment qui est effectivement quelque chose de très important pour vous. Est-ce que je suis dans le juste si je le reformule en disant que l'émancipation a pour temporalité spécifique le présent, en fait, et non pas un passé qui serait fantasmé, dont on serait nostalgique, ni d'ailleurs un futur qui serait plein de promesses à atteindre, mais que voilà, l'émancipation et l'égalité, c'est toujours des choses, des logiques qui se jouent dans le présent ou dans des moments qu'il s'agit d'essayer de faire durer, plutôt que justement derrière nous, devant nous, dans le passé, dans l'avenir.
Oui.
Il y a un primat quand même du présent.
Oui, un primat du présent. Maintenant, il s'agit de savoir ce qu'on veut dire par le présent. Mais je veux dire que il y a effectivement le primat du mouvement qui déploie une autre forme de temps, quoi. Et effectivement, c'est quelque chose de différent de la pensée du temps, qui est toujours en termes de conditions. Il y a le passé qui va produire tel présent, ou bien le présent est défini par le futur, à savoir, on fait les choses qui sont les étapes pour un futur. Ça, c'est le temps que vous pourrez dire ordinaire, consensuel, dominant, quoi. Et s'il y a des temps alternatifs, effectivement, c'est des temps qui sont comme l'expansion d'un moment de rupture par rapport à ce temps dominant.
Oui. Alors, vous avez parlé aussi il y a un instant de... c'est une critique qu'on fait souvent à votre... Vous avez dit, je ne suis pas un philosophe politique, mais beaucoup vous lisent aussi comme un philosophe politique et vous reprochent, je vais le dire comme ça, de penser la politique sur le mode, je ne sais pas si vous avez dit éphémère ou intermittent, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous reproche parfois, de penser la politique sur le mode comme ça, un peu éphémère, sans prendre en compte durée, la nécessité d'institutions. Pourtant, moi, quand je vous lis, j'ai l'impression que ce n'est pas ça la question qui est la vôtre. Il y a toujours des institutions, il y a toujours des organisations, et la question, c'est précisément pour vous de savoir si ces institutions permettent à une logique de l'égalité de se déployer ou au contraire l'en empêchent et instituent des logiques de l'inégalité. Comment vous expliquez que, parce que cette critique, elle n'est pas récente, Frédéric Lordon, je crois, la reformule dans son dernier livre, Vivre sans, mais en réalité, ça fait longtemps qu'on vous pose cette question, ça fait très longtemps aussi que vous y répandez, et pourtant, le malentendu n'est toujours pas levé.
malentendu n'est pas levé, je pense que ne le sera pas. Ce n'est pas un malentendu, si vous voulez. À partir du moment où vous ne dites pas ce que les gens attendent que vous disiez, bon, ils pensent que ce que vous dites n'est pas correct. C'est absolument normal. Donc, je veux dire, il y a quand même une espèce de perception du temps qui est comme ça, construit comme ça. Bon, il y a effectivement, il y a la longue durée, ça c'est sérieux. Et puis il y a les institutions, et puis il y a l'éphémère, les plaisanteries, le carnaval. Bon, j'ai toujours essayé de dire non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Bon, une révolution, c'est pas effectivement le produit de la crise économique qui produit une crise politique, etc. Bon, c'est une espèce de scène autonome, quoi. Cette scène autonome produit ces institutions. Il se crée partout tout le temps des institutions, tout le temps des organisations. Bon, je veux dire, j'ai essayé de dire encore. Pour les mouvements des places, bon, il y avait plus d'organisations sur les places, disons, sur les places d'Istanbul ou de Madrid qu'il y en a dans la plupart des organisations dites politiques. Mais bon, je veux dire que, encore une fois, c'est pas un malentendu. Moi, je ne veux pas trop me fatiguer, disons, à expliquer aux gens, parce que font ce que les gens me reprochent, c'est de ne pas dire ce qu'ils attendent, c'est de ne pas dire ce que je devrais dire. Mais je suis désolé, moi, je dis ce qui me paraît juste et je ne peux pas dire ce que les gens attendent que je dise. Mais bon, je pense que c'est extrêmement difficile. Bon, dans l'esthétique, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, si vous sortez des catégories admises, bon, de l'autonomie de l'art, du modernisme, du post-moderne, bah, les gens vous entendent plus parce que, effectivement, il faut quand même faire un petit effort pour entendre ce qui change avec, effectivement, le ronron dominant.
Est-ce qu'il y a plus d'organisations sur les places de Madrid et de Tunis que dans les organisations de gauche traditionnelles, ou est-ce que c'est justement deux types d'organisations différentes, et je schématise un peu, mais c'est qu'il y a des organisations plus, disons, horizontales, sans se faire d'illusions non plus là-dessus, sur ces places, que dans les organisations de gauche traditionnelles, qui sont quand même assez pyramidales, et ça, c'est attesté quand même par...
Oui, non, mais il y a deux choses différentes, c'est-à-dire que c'est toujours plus horizontal, d'une certaine façon, quand il s'agit d'organiser des activités qui correspondent au développement d'un mouvement, aux objectifs d'un mouvement qui, disons, a finalement à développer ces objectifs, on pourrait dire, au jour le jour, quoi. Bon, quand vous êtes une organisation dont l'objectif est d'avoir 1,5% aux élections et peut-être 5% aux européennes pour avoir des députés, effectivement, c'est un autre type d'organisation. Il y a beaucoup moins de choses à organiser, mais il y a en gros à organiser la question de savoir qui on va présenter et avec quel programme.
Vous dites quelque chose de très intéressant à propos de ces mouvements d'occupation et qui nous ramène, je pense, en partie à la question du paysage, je ne sais pas, mais en tout cas à la question de l'espace. C'est que les mouvements d'occupation, justement, on les a beaucoup pensés en termes d'espace. Et on occupe un espace, on occupe une place publique, un rond-point, même peut-être une ZAD éventuellement. Mais en fait, c'est occupation. C'est polysémique, c'est pas que en termes d'espace, c'est aussi en termes de temps. C'est l'occupation, c'est s'occuper, occuper son temps, habiter son temps autrement. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a moins perçu.
Oui, absolument. Bon, j'ai effectivement été amené à le dire quelques fois, mais c'est absolument certain. C'est-à-dire que une occupation, c'est une manière d'occuper son temps. Et bon, on retombe sur Platon et sur Platon, les ouvriers, le fait que leur occupation, ça consiste à être dans l'atelier. Et on voit bien à ce moment-là que occupation, justement, ne veut pas simplement dire une activité, un métier, un emploi, mais que ça veut dire une manière d'être dans le temps, quoi. Et effectivement, je dirais que tous les mouvements d'occupation sont aussi des moments pendant lesquels les gens remettent en question leur manière d'être dans le temps. Bon, il y a eu cette pancarte célèbre, le moment de Occupy Wall Street, que j'ai déjà commenté, où il y avait ce monsieur qui est arrivé avec une pancarte Lost a job, found an occupation. Bon, c'est ça, on est passé d'une certaine manière d'être dans le temps à une autre manière d'être dans le temps. Et oui, ça, c'est quelque chose qui est fondamental.
Ce type de pancarte, pour moi, ça fait le lien justement aussi entre l'esthétique et la politique. C'est-à-dire qu'on est dans des slogans, mais en fait qui cherchent à emprunter aussi des formes un peu poétiques, et parfois même dans la manière, la calligraphie, la graphie, il y a quelque chose d'esthétique là-dedans, et en même temps ça porte des messages extrêmement politiques. Je pense que ça noue aussi extrêmement bien les deux. Il y a une question que je voulais vous poser par rapport à la nature, tout simplement. Il en est beaucoup question dans cet ouvrage. Il n'y a pas de définition de la nature. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne peut pas en donner une ou parce que, il ne faut pas en donner une. En tout cas, je suis arrivé à la fin du livre en me demandant toujours ce qu'était la nature. Est-ce que...
Non, je pense que la nature est définie à plusieurs moments, mais enfin bon, sans que ce soit annoncé. Mais bon, voilà, disons, dans ce livre, il est quand même. Il y a à la fois des questions d'esthétique et en même temps, disons, forcément, ça débouche sur la politique, parce que bon, nature, c'est quand même au XVIIIe siècle un maître mot pour ce qui est de la politique. Donc voilà, bon, si on part d'abord, disons, simple terrain esthétique, pour autant qu'on puisse le limiter, disons, on est dans un univers réglé où la nature est ce que l'artiste est censé imiter. Sauf que cette nature qu'il s'agit d'imiter, c'est absolument pas, des petits ruisseaux qui coulent, des arbres, des prairies. Non, la nature, c'est en gros, c'est la nature des choses, mais la nature des choses en tant qu'elle est incarnée dans la nature humaine. Donc, imiter la nature, pour l'ordre classique, ça veut dire bon, imiter les passions en tant que les passions sont censées suivre une espèce de logique qui est la logique même de la nature s'exprimant. Donc voilà, il y a une figure, on peut dire, classique de la nature, qui est en quelque sorte comme, bon, disons, un peu la loi intérieure des choses, le principe intérieur du développement des êtres. Et puis, petit à petit, au XVIIIe siècle, bon, il y a une autre nature qui arrive sur le devant de la scène, quoi. C'est-à-dire que la nature, ça se met tout d'un coup à désigner bon, justement les prairies, les ruisseaux, que sais-je encore, toute chose qui n'était pas la nature. Quoi. Disons, dans le temps, quand on imitait la nature, ça ne voulait surtout pas dire représenter des ruisseaux, des arbres, des forêts. Non, ils pouvaient être là, mais éventuellement dans le fond simplement, là, imiter la nature. Il fallait pour ça mettre des personnages en action, exprimant des sentiments au premier plan. Et puis, voilà, petit à petit, arrive sur le premier plan cette nature, donc d'une part est complètement différente, puisque, disons, c'est une nature qu'on voit, qu'on ressent, mais bon, jusqu'ici, on ne la pensait pas comme nature. Bon, quelque part dans le livre, il y a une description d'un sentier, comme ça, d'un sentier campagnard, envahi par les herbes, avec des arbres qui se penchent, des ornières et ainsi de suite. Bon, ça, c'est devenu la nature. Mais que ce soit devenu la nature, c'est une chose qui était impensable 100 ans avant. Ça veut dire, donc, non seulement tout d'un coup, bon, ils font une certaine ordonnance de l'eau, de la terre. Des pierres, de tout cela, qui se met à prendre le nom de nature, mais en plus cette nature n'est plus quelque chose que simplement que les artistes imitent, mais cette nature est elle-même artiste. Bon, c'est ça, la grande découverte du 18e siècle, que j'ai un peu longuement étudié dans le temps du paysage, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de la nature. Et ça, c'est les Anglais qui inventent ça, effectivement. Je mentionne au passage que lorsqu'on traduit un livre sur l'art des jardins en français, on s'excuse en disant c'est les Anglais, ils parlent comme ça, ils parlent des scènes de la nature. Mais bon, ça a un sens, ça veut dire que la nature une sorte d'artiste dramatique et que par conséquent les formes des montagnes, l'arrondi des lacs, les brisures des chaînes montagneuses, la manière dont les arbres s'intègrent au paysage, tout cela est l'œuvre d'une nature artiste. Mais ce qui est important, c'est que la nature est une sorte d'artiste complètement nouveau, à savoir un artiste qui ne veut pas faire de l'art. Et on sait à quel point d'une certaine façon le rapport justement, on peut dire, de la volonté de faire art à l'absence de volonté va devenir quelque chose de capital dans toute la révolution esthétique et peut dire dans tout l'art moderne, quoi. Donc voilà, il y a cette nature qui est proprement un artiste d'un genre nouveau qui peut dire dispose des apparences comme le font normalement les artistes, mais les dispose d'une certaine manière, à savoir d'une manière qui est non hiérarchique, d'une manière qui est au fond où les choses sont liées. Non plus par des lois, mais sont liées par des formes d'intrication, des formes de connexion, des formes de sympathie, et ainsi de suite. Alors bon, qu'est-ce qui va se définir, comme nature ? C'est quelque chose comme une sorte de, je veux dire, de, de mouvement par lequel bon, se crée justement tout un univers qui est un univers de connexion, un univers de sympathie, un univers de sentiment. Donc voilà, c'est ce que j'évoque un petit peu à travers la nature chez Kant, quoi. La nature chez Kant qui devient quelque chose, non plus comme une entité, mais comme, fond, comme un mouvement qui part bon, bah, de ces jeux de l'eau, de la terre et de l'air. Pour devenir quelque chose comme une sorte d'un petit peu de repère idéal. Donc voilà, la nature, c'est fondamentalement, je dirais, un concept mouvement. C'est toujours, d'une certaine façon, pour le dire, disons brièvement, au fond, la nature, c'est toujours le concept de ce qui lie les êtres entre eux, quoi. Mais au fond, le mode de la liaison va complètement changer, justement, va complètement changer bon, au cours du XVIIIe siècle. Bon, et ça correspond aussi, bien sûr, aussi à ce qui se passe dans dans le domaine politique avec l'idée d'une nature qui donne ses lois. Bon, cette nature qui est, disons, d'abord, on peut dire, une forme justement de liaison, une forme de liaison, une forme de liaison non hiérarchique, une forme de liaison qui n'est plus tellement, au fond, disons, de l'ordre de la loi, mais de l'ordre d'une sorte de grande sympathie qui lie tous les êtres entre eux.
Là, vous décrivez les basculements de sens successifs de cette notion de nature, mais est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un dernier chapitre à ce récit? Est-ce que la crise climatique qui est là aujourd'hui devant nous, et vous avez parlé de forêt, on a la déforestation sous les yeux, vous avez parlé d'air, on a la pollution de l'air, est-ce que la philosophie, elle est toujours dans son temps? Et est-ce que précisément aujourd'hui, cette donnée massive qu'est la crise climatique, qui se décline de plein de façons différentes, est-ce qu'elle ne devrait pas obliger les philosophes, bon, il y en a peut-être justement qui le font, mais à aller encore un pas plus loin dans cette exploration de l'idée de nature pour peut-être la repenser encore différemment au regard précisément de cette crise climatique qui, au-delà de peut-être de nous amener à repenser la nature, devrait peut-être même nous amener à repenser le temps, puisque c'est de temps aussi dont il est question avec cette urgence qui se présente à nous. Il y a quelques années, quelques décennies de ça, on s'alarmait pour les générations futures, mais aujourd'hui, les générations futures, en fait, c'est la génération présente qui vit la disparition des hirondelles et des insectes. Donc, est-ce que là, quand même,
là, pas... N'exagérez pas, les hirondelles sont toujours là. C'est vrai qu'elles ont moins à manger, c'est un vrai problème.
Voilà, comment est-ce que, oui, est-ce que tout simplement ce contexte n'oblige pas bon, à reprendre le chantier philosophique sur toutes ces notions?
Bon, il le faut certainement. Bon, je dirais que bon, je suis un peu trop vieux pour ça. Bon, maintenant, voilà, j'ai essayé d'étudier un certain moment, effectivement, de connexion entre disons, une formation esthétique et puis l'univers politique. Bon, après maintenant, effectivement, il faudrait bon, repenser là, sans doute entièrement la notion de nature. Mais je dirais que de toute façon, mon problème propre n'était pas de penser la notion de nature. Il était de penser, au fond, la question des formes de l'expérience, disons, qui en quelque sorte, on peut dire, structurait font l'esthétique et le politique bon, à l'âge moderne. Peut-être que maintenant, il faut changer, mais bon, il faut que d'autres personnes s'en occupent.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a un discours aujourd'hui qu'on entend de plus en plus concernant justement cette nécessité de sauver la planète. On entend qu'il faut faire vite, on n'a plus le temps et donc il faut se débarrasser de la démocratie. Alors je sais que vous êtes de ceux, vous l'avez dit et répété, qu'on n'était pas en démocratie, mais il faut se débarrasser de la démocratie. D'ailleurs, ils vont brandir par certains le modèle chinois en disant « Regardez, là-bas, au moins, comme c'est très dirigiste et autoritaire, on peut prendre des actions de grande ampleur. » pleure rapidement. Cette espèce d'écologie technocratique, quel regard vous portez là-dessus? Parce que je trouve que c'est un discours quand même qu'on entend de plus en plus souvent, mettre entre parenthèses la démocratie pour sauver le climat.
Oui, non, mais en gros, on voit bien justement que, au fond, ça, c'est le... C'est, disons, au fond, ce qui marque un basculement. Après, il n'est plus question de nature, en réalité. Quoi. On voit bien que maintenant, disons, ce qui est venu au premier plan, c'est le couple Terre-Planète. Quoi. Et effectivement, dès qu'on dit la question est celle de la planète, bon, on voit bien que la question ne se résoudra jamais qu'à l'échelle de la planète, c'est-à-dire à l'échelle des puissances planétaires. Donc, effectivement, je dirais, bon, ce qu'il serait intéressant de prendre un petit peu... Voilà, à la mesure de toutes ces évolutions. Et bon, il est clair qu'à partir du moment où il s'agit de défendre la planète, bon, il faut prendre tous les moyens. Mais la question, malgré tout, c'est que, bon, il y a de toute façon, en plus, il y a quand même des puissances qui sont des surpuissances qui ne s'occupent pas pour autant de défendre la dite planète. Donc, c'est encore un autre problème.
J'ai parlé de crise climatique. Il y a tout aussi un discours aujourd'hui, bon, sur la crise qui serait économique, politique, sociale, etc., etc. Vous faites une remarque que j'ai trouvée extrêmement pertinente. Je crois que c'est dans En quel temps vivons-nous, mais je suis plus tout à fait sûr, où vous dites, grosso modo, la crise chez Marx, en tout cas sous sa plume, ça désignait des contradictions internes au capitalisme et donc ce qui finalement le minait de l'intérieur et risquer de précipiter son dépassement. Et aujourd'hui, en fait, ce terme, tel qu'il est utilisé de manière la plus courante, fonctionne plutôt, c'est comme ça que je vous ai compris, au contraire, non pas comme ce qui va miner le système, mais précisément comme le prétexte pour faire perdurer les modes de domination, puisqu'on dit c'est en crise, il faut réformer, il faut moderniser, on continue d'administrer les recettes néolibérales. C'était ça le
Oui, bon, là encore une mesure, on est sur la question du temps, bien sûr. Bon, la crise est une manière de nommer le temps. Alors, bon, il y a la définition, disons, économique de la crise, bon, effectivement, qui est chez Marx, avec l'idée que, voilà, les crises du capitalisme vont s'accroître, et puis, effectivement, le faire exploser. On est passé, bien sûr, de cette logique de la crise à quelque chose comme une pathologie de la crise, mais en même temps une pathologie de la crise qui est complètement en rupture avec, on peut dire, la tradition pathologique, puisque dans la tradition pathologique, la crise, c'est le moment décisif, alors que, bon, maintenant, cette espèce de pathologie nouvelle, la crise, c'est en quelque sorte ce au bord de quoi on est tout le temps.
C'est le régime normal, on est tout le temps, oui, c'est la crise permanente.
Une sorte de régime normal, évidemment, un régime normal qui veut dire un peu, enfin, c'est comme pour la planète, si vous voulez, disons, un régime normal qui fait qu'effectivement, seuls les gens qui sont compétents et qui ont assez de puissance doivent s'occuper de la crise, c'est-à-dire s'occuper des affaires du monde.
Vous êtes intervenu récemment auprès de cheminots grévistes. Vous avez, je crois, lu un texte qui a ensuite été publié dans le journal Le Monde. Je crois que ce texte renvoie aux questions de temporalité dont on parle actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, derrière la mobilisation contre la réforme du gouvernement, c'est la question du temps de vie, du temps libre, mais aussi du temps aliéné qui est en jeu.
Bon, on est assez loin des jardins, mais disons que, bon, qu'est-ce que c'est que la retraite et qu'est-ce qui en fait un symbole fort, c'est que, ben, la retraite, c'est véritablement le rapport entre temps de travail et temps de vie, quoi. Bon, on a travaillé et, disons, ce temps de travail donne droit ou ouvre un temps de vie, quoi. Et au fond, toute la question est de savoir comment ce rapport entre temps de travail et temps de vie est organisé, quoi. Et on voit bien que dans ce qui se passe actuellement, et qui évidemment n'est qu'un élément, un tout petit élément d'une vaste, on peut dire, reconfiguration de notre monde. Au fond, ce vers quoi on va, c'est la destruction d'une certaine idée de la retraite comme fondée sur la solidarité d'un collectif, parce que les caisses de retraite, c'est aussi la solidarité d'un collectif, bien sûr, qui s'occupe, bon, en même temps, en quelque sorte, de ce qui concerne tout le monde, quoi. Bon, au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe avec le système des points? Qu'est-ce qui se passe avec, finalement, le système de retraite par capitalisation, disons, par rapport auquel le système des points est une sorte d'intermédiaire. Bon, voilà, c'est qu'on va être dans un système où, ben, chacun va gagner des points, chacun va accumuler, disons, pour lui-même. Et au fond, dire que chacun, au fond, vivra ce temps, ce rapport du temps du travail au temps de la vie, bon, sur le mode de l'assurance. Bon, sur le mode de l'assurance, ça veut dire, en gros, sur le mode sur le mode de la capitalisation, ça veut dire, finalement, bon, sur le mode de l'exploitation, quoi. Et on voit bien que on est quand même dans un système où, de plus en plus, bon, il faut apprendre aux gens à vivre non pas en travailleur, mais en capitaliste, quoi. Au fond, le travail même devient une sorte de, disons, d'exploitation par un individu de son propre capital. Donc voilà, je pense qu'il y a toute une espèce de logique globale, effectivement, où là encore le temps est au centre, quoi.
C'est... Je Je pense que ça fait une très belle conclusion. Je vous remercie, Jacques Rancière, d'avoir pris le temps de venir ici pour discuter de toutes ces questions. Merci beaucoup.
Merci de vos questions.